Et puis à gauche, la question protectionnisme, du protectionnisme fait débat. Donc j'en reviens à la problématique. Face aux limites du libre-échange et de la mondialisation libérale, le protectionnisme est-il une solution pour protéger les intérêts des travailleurs? Est-ce un outil nécessaire pour davantage de justice sociale? Ou bien ne serait-ce qu'une impasse, au mieux une impasse, ou au pire peut-être quelque chose de dangereux? Alors pour essayer d'y voir un peu plus clair dans ces questions, David Kaila interviendra en premier. Donc David Kaila est enseignant-chercheur à l'université d'Angers. Il est membre du collectif Les Économistes Atterrés. Et vous pouvez retrouver sur internet, sur le site Le Vent se lève, une interview qui a pour titre « Le protectionnisme est-il compatible avec un projet social ?» Et puis en janvier 2017, avec Coralie Delhomme, vous avez publié « La fin de l'Union Européenne » qui est disponible à la librairie, et je crois que vous avez une dédicace à la fin de cette conférence. Éric Lahy interviendra ensuite. Vous êtes membre de Lutte Ouvrière, et vous nous expliquerez pourquoi vous vous opposez à l'idée protectionniste dans une perspective marxiste et internationaliste. Et puis vous avez publié dans le Cercle Trotsky une petite fascicule intitulée « Face au ravage de la mondialisation capitaliste, l'impasse du souverainisme ». Vous avez publié ça en décembre 2016 et on le retrouve également à la librairie.
Oui, alors déjà je voudrais remercier donc les citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui de nous avoir invités, en particulier Bernard Clerc. Voilà. Alors moi je vais prendre le problème sous un autre angle. Hein, là le deuxième tour d'élection présidentielle, il a été marqué par l'affaire Whirlpool. Vous savez, cette usine d'Amiens où 300 salariés sont menacés de perdre leur emploi sous la menace d'une délocalisation en Pologne. Alors, vous avez vu qu'au travers de Whirlpool, Macron est venu leur dire que tout allait bien, qu'enfin, il fallait se former, il fallait s'adapter. Finalement, le libre-échange ouvert, etc. Bref, pour lui, pas de problème. Bon. Et de son côté, celle qui est aussi venue rencontrer les travailleurs de Whirlpool, c'est Marine Le Pen, pour leur dire qu'elle allait prendre des mesures protectionnistes, qu'au pouvoir, elle taxerait les importations, qu'elle sortirait de l'Union Européenne, et accessoirement qu'elle réserverait, dit-elle, le travail aux Français. Eh bien, le problème dans cette affaire, le drame, c'est que Marine Le Pen, elle n'ait pas été rejetée comme un corps étranger devant cette entreprise. Et que les salariés effectivement menacés de perdre leur emploi, ils aient pu considérer qu'entre les deux, c'était Marine Le Pen qui représentait plus leurs intérêts. Alors comment on en est arrivé là? Et comment ça se fait qu'une fraction non négligeable aujourd'hui des classes populaires ou des ouvriers peuvent considérer qu'une Marine Le Pen pourrait être la défenseuse de leurs intérêts? Et à ces travailleurs qui subissent effectivement les plans de licenciement, la précarisation, les salaires tirés vers le bas, etc., en l'attribuant à tort ou à raison à la mondialisation, eh bien qu'est-ce qu'on leur dit? Bon, alors Hervé a posé le problème en disant qu'il y avait un certain nombre aujourd'hui de militants ou d'intellectuels ou d'économistes qui en gros disent que la réponse c'est qu'il ne faut pas laisser le protectionnisme à l'extrême droite. Ah, il a cité d'ailleurs François Ruffin qui est précisément concerné, ou qui en tout cas à Amiens et avec Whirlpool. On peut citer son ami Frédéric Lordon qui répète, qui écrit qu'il faut défendre une vision de gauche de la souveraineté et qu'il ne faut pas laisser ses idées protectionnistes et souverainistes à l'extrême droite. Eh bien, bon, au risque d'être assez minoritaire ici, moi je veux défendre dans cette intervention que, proposer aux travailleurs, aux salariés qui sont victimes de la loi de la jungle capitaliste, bah, finalement des mesures protectionnistes, eh bien c'est une impasse dangereuse. Parce que en réalité, ça revient à les désarmer idéologiquement, politiquement, en leur désignant des boucs émissaires à la place des véritables responsables de ceux qui organisent ces suppressions d'emplois et cette exploitation. Alors bon, pour l'extrême droite, les boucs émissaires, ce sont les étrangers, ce sont les migrants, mais c'est aussi l'Union Européenne. Alors, chez les souverainistes de gauche, c'est pas les étrangers directement, certainement, mais c'est aussi l'Union Européenne, c'est les traités de libre-échange. Et puis bon, c'est l'Allemagne, régulièrement, avec des accents anti-germaniques parfois inquiétants. Alors je pourrais en citer un certain nombre, je ne vais pas le faire tout de suite. Et puis c'est du coup arriver sur un terrain parfois qui pose question, avec des formulations par exemple sur les travailleurs détachés qui viendraient prendre le pain des Français, qu'on a pu entendre pendant la campagne électorale, et bien qui devrait nous faire poser un certain nombre de questions. Alors, pour reprendre l'intitulé du débat, défendre les intérêts des travailleurs, eh bien, moi, ce que je veux défendre, c'est qu'il faut renouer avec les perspectives internationalistes que le mouvement ouvrier a défendu à ses débuts et sur lesquelles ce mouvement ouvrier il s'est bâti. Hein. Et donc, autrement dit, combattre le capitalisme lui-même et pas tel ou tel aspect conjoncturel de sa politique qui, en effet, peut être protectionniste, libre-échangiste, tour à tour et en même temps. Voilà. Alors, la mondialisation, bon, David qui est là fait un peu d'histoire, je vais en refaire aussi un tout petit peu. Hein. La mondialisation de l'économie, incontestablement, c'est pas un phénomène nouveau. Moi, je dirais même qu'elle est consubstantielle au capitalisme. Et c'est d'ailleurs la mondialisation précoce du capitalisme marchand dès les 16e, 17e siècle, etc., avec son cortège de pillage et d'exploitation qui a permis l'accumulation des capitaux, qui a permis la révolution industrielle. Alors, les crises cycliques, le chômage de masse, la mise en concurrence des travailleurs, c'est quelque chose qui est aussi ancien que la révolution industrielle. Et de ce point de vue-là, jouer sur la division, hein, je prendrai un exemple, opposer par exemple les migrants irlandais catholiques qui crevaient la faim aux ouvriers anglais protestants qualifiés pour tirer les salaires vers le bas, bah, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas des travailleurs détachés récents, ça date des années 1840 en Angleterre. Sauf que la réponse des marxistes à cette époque-là, c'était pas de proposer un repli national, hein, c'était pas de proposer le protectionnisme. Je dirais même qu'un tel repli leur semblait inconcevable. Bon, parce que ils constataient que le développement des forces productives, hein, y compris la recherche de débouchés, de marchés, de matières premières, etc., exigeait l'arène du marché mondial. Ça, c'est aussi vieux en effet que le capitalisme. Et donc, cette mondialisation de l'économie pour eux n'était pas une menace, hein, mais c'était au contraire la base économique qui allait permettre en fait de rendre possible la socialisation des moyens de production et du coup d'élever les capacités à satisfaire les besoins de tout le monde. Bon, ce qu'ils ont pu appeler la base économique d'une société communiste, hein, et qui est le communisme en question, celui du manifeste communiste, absolument antinomique avec l'idée dans un seul pays. Hein, voilà. Alors, dans le manifeste communiste, qui est quand même un ouvrage relativement de référence, hein, Marx Engels, 1847, il constatait, au grand désespoir des réactionnaires, la bourgeoisie a enlevé à l'industrie sa base nationale. Bon, et donc, c'était une anticipation, déjà à l'époque, d'un phénomène qui est aujourd'hui devenu un peu une évidence. Alors, je vais juste citer quand même, parce que c'est intéressant, je pense que ça mérite de faire réfléchir un certain nombre de personnes, de militants qui se posent des questions sur l'État, enfin, sur ces idées-là. Le débat entre le libre-échange et le protectionnisme, une des premières fois où il est venu sur la table, Hervé l'a rappelé en Angleterre à l'époque de Ricardo et dans cette période-là, c'est au moment où du début de la révolution industrielle, quand en Angleterre, il y avait un conflit entre la bourgeoisie industrielle, les manchestériens qui gagnaient leur argent dans le textile et qui justement voulaient que l'Angleterre devienne libre-échangiste pour pouvoir effectivement faire couler les concurrents indiens et autres, et une autre fraction des classes possédantes britanniques, les propriétaires terriens, qui eux étaient protectionnistes pour défendre, empêcher l'importation de blé, voilà. Et les uns et les autres, pendant toute une décennie, ont fait une campagne d'opinion pour tenter de convaincre en particulier les travailleurs, les pauvres, que c'était à leur intérêt, bien compris à eux, de les suivre. Alors les libre-échangistes, en expliquant que le prix du blé allait baisser, donc le pouvoir d'achat des travailleurs allait lui aussi s'améliorer, et les autres, eh bien que finalement ils étaient sous la coupe des industriels, hein, et que finalement il fallait que l'Angleterre reste protectionniste. Alors je vous lis juste la conclusion d'un petit discours de Marx sur cette question. En général, de nos jours, le système protecteur est conservateur, tandis que le système du libre-échange est destructeur. Il dissout les anciennes nationalités et pousse à l'extrême l'antagonisme entre la bourgeoisie et le prolétariat. En un mot, le système de la liberté commerciale hâte la révolution sociale. C'est seulement dans ce sens révolutionnaire, messieurs, que je vote en faveur du libre-échange. Alors Marx, libre-échangiste, ça fait bizarre. Ben oui, mais ça doit nous faire méditer, hein, sur le fait que dans cette affaire, c'est pas une question en l'air, c'est une question quel était l'intérêt des opprimés, justement, des travailleurs, en l'occurrence, dans cette affaire. Voilà. Alors, bon, cette tendance à la mondialisation de l'économie était évidemment à l'époque en devenir, en train de se faire. Bon, aujourd'hui, elle est infiniment plus. C'est une réalité. Alors, tout ça pour dire que la mondialisation, c'est pas la mondialisation qu'il faut combattre, mais c'est le capitalisme. Et c'est pas aller en arrière qu'il faut, mais c'est aller en avant. Voilà. Alors, la réponse des marxistes à la mise en concurrence des travailleurs, donc c'était pas le protectionnisme, mais c'était l'organisation internationale pour combattre l'exploitation. Hein, et la fameuse formule « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous hein, ». C'était ça leur réponse, en réalité. Et bon... là encore, petit exemple, les militants qui se posaient, qui se positionnaient sur le terrain finalement de la défense des exploités, de la défense des travailleurs de toute cette époque, hein, leur préoccupation n'était pas d'empêcher les investissements à l'étranger, d'empêcher en fait l'extension et la circulation ni des capitaux, ni des usines, ni des marchandises. Hein. Pour prendre qu'un seul exemple, c'est parce qu'un certain nombre de capitalistes français, allemands, suédois hein, ont décidé d'investir des capitaux dans les années 1890-1900 du côté de Petrograd, dans l'Empire russe, ou du côté de Bakou, hein, que ça a développé une industrie importante avec la concentration de travailleurs et que ça a permis l'explosion révolutionnaire que vous savez de 1917 dont on fête le centenaire aujourd'hui. Donc voilà, le mouvement ouvrier, dans toute cette période, il ne proposait pas oui, ça marche. Il ne proposait pas de produire en France, hein, il ne s'opposait pas à l'exportation de capitaux, mais son problème, sa préoccupation, c'était que les travailleurs s'organisent hein, politiquement à l'échelle nationale et à l'échelle internationale pour prendre le pouvoir politique, c'est-à-dire finalement pour le renverser, le capitalisme. Donc c'est ça la discussion qui est à mener. Alors, c'est pas le protectionnisme qui est la guerre. Enfin, on entend, certains disent, politique protectionniste, c'est la guerre. C'est le capitalisme lui-même qui l'a... C'est sa concurrence, c'est les rivalités pour les marchés, pour les débouchés qui la provoque. Voilà. Alors, d'un autre côté, ce capitalisme, les principales firmes qui produisent les richesses, elles réalisent à l'échelle de la planète en interne une rationalisation des économies d'échelle spectaculaire qui explique leur décision de fermer des entreprises, de toutes les conséquences que l'on constate, sauf que tout ça, elles le font pas pour l'intérêt commun, pas pour l'intérêt des consommateurs, pas pour l'intérêt des salariés, mais elles le font pour les profits des actionnaires. Donc la question qui est posée, c'est justement d'en prendre le contrôle. C'est pas discuter en général d'une politique protectionniste ou libre-échangiste, mais au service de qui ? À qui elle profite ? Qui impose ces décisions ? Voilà, alors, bon, ça c'est un aspect du problème. Alors, autre aspect du problème que je voudrais aborder, quand on met en avant une politique protectionniste comme réponse au chômage, réponse au licenciement, réponse au ravage de l'économie capitaliste, bon, eh bien, ça revient à épargner les principaux responsables, c'est-à-dire les actionnaires des grandes entreprises ou des banques. Alors, je voudrais aborder cet aspect-là. Comment ces fameuses grandes sociétés elles réagissent face aux propositions, aux menaces ou à l'éventualité de mesures protectionnistes qu'on pourrait leur imposer. Parce que, effectivement, aujourd'hui, quand même un fait que l'immense majorité des grands groupes économiques, bancaires, ils sont plutôt libre-échangistes. Ils sont plutôt, en tout cas, ils ne sont pas favorables à la politique mise en avant par Trump, etc., qu'on a pu citer. Ça pourrait changer. Je vais y revenir, parce que, effectivement, les mesures protectionnistes, il y en a aujourd'hui toute une série dans des tas de domaines, alors qu'on est dans une phase globalement libre-échangiste. Bon, donc ça pourrait changer. Mais, si ça changeait, est-ce que ce serait favorable aux travailleurs? C'est ça l'intitulé du débat. Alors, pour ça, je voudrais juste vous citer les propos de Jean-Dominique Sénard. Alors, Jean-Dominique Sénard, c'est le PDG de Michelin. Bon. PDG de Michelin qui était interviewé sur BFM TV en février dernier, il réagissait à l'élection de Trump et à l'annonce de ses mesures protectionnistes. Voilà. Alors, le fait que Michelin ait une usine au Mexique en cours de construction et que Trump menace de taxer à 35% les importations en provenance du Mexique. Alors, première réponse de Sénard, fanfaronne mais assez réaliste. On en a vu d'autres, hein, laissons passer le temps, des déclarations, le principe de réalité l'emportera. Bon, il est plus facile de parler de barrières douanières que de les mettre en place. C'est un connaisseur qui cause. Deuxième réponse, qui devrait nous faire réfléchir. Si on pouvait plus vendre des pneus aux États-Unis, eh bien on les vendra au Mexique ou en Amérique latine. C'est-à-dire que le patron d'un groupe qui venait d'annoncer 1,6 milliard d'euros de bénéfices pour l'année 2016 n'était pas inquiet, même si de telles mesures se mettaient en place. Voilà. Alors, troisième réponse du même Sénat, cette fois-ci sur le Brexit, hein, qui est quand même présenté aussi comme une réponse qui pourrait être favorable aux intérêts des classes populaires, nous dit-on. Alors, comment le patron de Michelin voit le Brexit? Bien, il dit, la baisse de la livre sterling nous a amené à réagir rapidement en augmentant nos prix. Elle a été un booster très favorable pour la compétitivité de notre usine d'Écosse. Autrement dit, on a fait bosser plus les travailleurs de cette usine-là. Je n'ai donc pas d'inquiétude particulière pour Michelin par rapport au Brexit. Voilà. Alors Sénard dit, mieux que moi, hein, que le protectionnisme ne protégera pas les travailleurs qui en paieront les conséquences en tant que consommateurs. Voilà. Alors, bon, on l'a dit, je vais peut-être aller vite là-dessus, mais effectivement, au cours du temps, hein, selon les rapports de force, selon la situation économique générale, eh bien, les capitalistes de chaque pays ont pu être libre-échangistes ou protectionnistes. Ils sont les deux en même temps. Hein. On nous parle beaucoup dans la presse, etc., en expliquant que c'est une menace, y compris pour les emplois ici, donc de la concurrence, par exemple, de la Chine et de l'acier chinois. Alors, l'acier chinois, aux États-Unis, il y a une batterie de mesures protectionnistes qui ont été mises en place, non pas par Trump, mais par Obama. Bon, dans certains secteurs précis, jusqu'à 500% de taxes. Bon, il y a actuellement 37 mesures protectionnistes européennes contre l'acier chinois. Voilà. Donc, en fait, on enfonce dans la tête des travailleurs que si aujourd'hui ils sont mal payés, c'est à cause de la concurrence déloyale de la Chine, etc. Mais les capitalistes européens, eux, ils se prémunissent, ils se donnent les moyens. Et ça n'a pas empêché Mittal de fermer l'usine de Florange, de fermer l'usine de Gondrange, etc. Donc voilà, ça veut dire que ces mesures protectionnistes, en réalité, ils ne font pas de grands discours sur la théorie protectionniste opposée à la théorie libre-échangiste, mais ils défendent leurs intérêts au quotidien. Voilà. L'association Global Trade Alert, elle a compté 2500 mesures protectionnistes dans le monde depuis 2008. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est enfin, réellement la grande bourgeoisie, les patrons de ces grandes entreprises, ils s'assoient là-dessus et quand ça les arrange, ils les mettent en place. Parce que j'en arrive donc à un point suivant, on nous dit il faut que l'État intervienne. Si on met en place des mesures protectionnistes, c'est pour favoriser la régulation et l'intervention de l'État. Ok, et de quel État on parle? Est-ce que l'État, il est neutre? Est-ce que l'État, il n'est pas traversé par des natures sociales? Est-ce que finalement Patrick Drahi, le PDG de SFR, a les mêmes intérêts que l'intérimaire qui pose la fibre optique dans les immeubles? Eh bien, quand on nous parle de l'intérêt de l'État, on fait croire que c'est le même État et que cet État est au service de l'ensemble. Alors, la souveraineté nationale, eh bien, c'est pas la souveraineté de tous. La souveraineté nationale, c'est la souveraineté de quelques centaines de grandes fortunes sur l'appareil d'État. Hein. Et c'est un fait que, oui, les États, ils sont devenus les instruments d'intervention des intérêts des immenses groupes industriels, bancaires, hein, à la fois pour obtenir leur espace vital, pour obtenir l'accès aux matières premières, etc. Bon, je ne vous apprends pas que le meilleur VRP de Dassault, c'est Jean-Yves Le Drian. Et je ne vous apprends pas qu'on peut avoir, j'ai une belle galerie de photos où Serge Dassault est aux côtés de Giscard d'Estaing, puis de Mitterrand, puis de Chirac, puis de Hollande, etc. Donc voilà, c'est ça l'État, quand on parle d'État. C'est pas l'État en réalité sous le contrôle de la population. Alors, si tous les gouvernements successifs, dans tous les pays riches de la planète, ont mis en œuvre depuis plusieurs décennies, effectivement, des politiques de dérégulation financière, de démantèlement des services publics, hein, c'est pas parce qu'ils ont perdu leur souveraineté nationale imposée par je ne sais quel organisme supranational. Pas du tout. En fait, c'est parce qu'ils répondent aux demandes, aux exigences de ces grands groupes, de ces capitalistes de différents secteurs, hein, qui, depuis la crise justement de 2008, etc., hein, eh bien, veulent généraliser la précarisation, ont réduit considérablement leurs investissements productifs. Voilà, on avait une demi-heure, enfin bon, c'est pareil. Okay. Bon, j'ai commencé à un quart, mais je vais faire plus court, mais on est loin de là. Voilà, c'est vrai que David a parlé beaucoup moins. Voilà. Bon, mais on reprendra.
Eric, c'est moi qui ai demandé, c'est pas tout à fait vrai.
Ok, il n'y a pas de problème,
on va faire le débat.
On fait le débat et puis je reviendrai.
5 minutes et puis on revient sur les questions au cours du débat pour répondre aux gens, voilà.
Pas de souci. Donc je vais passer sur l'Union Européenne, on y reviendra, c'est important, ça va peut-être venir dans la discussion. Voilà, donc simplement, pour conclure, alors, je vais essayer de résumer un certain nombre de ces positions-là. Moi, ce que je défends comme position, c'est que les idées souverainistes, elles empêchent les travailleurs de comprendre les tenants et les aboutissants de leur exploitation. Elles entretiennent une illusion dangereuse, c'est qu'il y aurait un intérêt national où l'État pourrait être à leur service et pourrait assurer leur défense. Et que, en fait, ces États, ils sont au service des grands groupes qui dominent aujourd'hui l'économie. Voilà. Si le vent tournait, et si, avec l'aggravation de la crise en particulier, un certain nombre de gouvernements finissaient par mettre en œuvre une politique massivement protectionniste, comme ça a pu être le cas dans le passé, eh bien c'est aux travailleurs qu'on présentera la facture. Alors, ils auront les augmentations de prix et encore quand même le chantage à la compétitivité, le chantage à la productivité. Ce ne sera plus au nom de la concurrence, enfin ce sera une autre façon de l'exiger au nom de la concurrence internationale. Alors, effectivement, le capitalisme aujourd'hui a transformé la planète en une seule et vaste entité économique où toutes les régions sont interdépendantes, que ça, c'est un processus irréversible. Alors, c'est pas... voilà. Et la seule porte de sortie, eh bien, c'est pas de revenir en arrière par rapport à ça, mais c'est d'aller de l'avant en prenant le contrôle de ces formidables moyens de production. Et ça, eh bien, effectivement, ça suppose de leur enlever la propriété sur ces entreprises, de leur enlever le pouvoir. Voilà. Et donc, aujourd'hui, si on veut défendre les intérêts des travailleurs, il faut renouer avec cette idée ancienne selon laquelle les ouvriers n'ont pas de patrie, et que ce n'est pas seulement un slogan, parce que, je vais finir là-dessus, bon, pour notre part, nous sommes convaincus que les attaques qu'on subit, les attaques contre les droits des travailleurs, le démantèlement de toute une série de choses, les droits, les conditions de vie, l'existence, etc., ça va finir par provoquer un certain nombre de révoltes collectives, de luttes collectives. Et le drame, ce serait que de telles explosions, eh bien, elles aient comme objectif, elles soient dirigées par des gens, par des forces qui proposent comme solution de fermer les frontières, d'instaurer des politiques protectionnistes et nous désignent finalement comme responsables de nos problèmes. Eh bien, des gens plus malheureux que nous, qui ont les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations, à savoir survivre et trouver du boulot. Donc voilà, donc pour ça, il faut qu'un certain nombre de militants, de jeunes, etc., eh bien,
s'attache à réimplanter les raisonnements internationalistes que j'ai essayé de défendre un petit peu.